Désormais, chaque abattoir devra désigner en son sein un responsable du contrôle des modalités de mise à mort pour les animaux. Un travail de fond aussi est en cours avec un renforcement des contrôles d'État et l'alourdissement des sanctions en cas de mauvais traitement. Car pour le moment, seul le code rural dénonce les cas de souffrance des bêtes lors de l'abattage. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, lui, veut créer un délit de maltraitance envers les animaux, cette fois inscrit dans le code pénal, avec un statut spécifique pour protéger les salariés qui souhaiteraient dénoncer ces agissements.
Merci beaucoup Hélène Masculli en direct sur France Culture. Demain à Paris, c'est la marche des fiertés et 3 semaines après la tuerie homophobe à Orlando en Floride qui a fait 49 morts dans un club gay et dans un contexte sécuritaire très tendu en France, évidemment le trajet du défilé a été soumis à la préfecture de police de Paris qui a voulu modifier et raccourcir ce trajet car la communauté gay, lesbienne, bi et trans dans la capitale est très inquiète. C'est un reportage d'Antoine Marette.
C'est l'un des bars gays mythiques de la capitale, une institution qui affiche fièrement la couleur avec ses 2 drapeaux arc-en-ciel qui trônent sur sa façade. Le Banana est un lieu de fête depuis plus d'un quart de siècle, mais depuis quelque temps les choses ont un peu changé. Michel Michel est le responsable du Banana.
Dans un premier temps, on a acheté des détecteurs de métaux. On demande aux gens d'ouvrir les sacs et de nous faire voir ce qu'ils ont dedans. S'ils ont des très gros sacs ou des valises, des choses comme ça, on demande qu'ils les laissent au vestiaire de manière obligatoire. Et puis la société qui s'occupe de la sécurité chez nous va demander, ça on va le mettre en place dans les jours qui viennent, que les agents aient des gilets pare-balles.
Il y a eu les attentats du 13 novembre à Paris qui ont visé notamment des bars et une salle de concert et puis la tuerie d'Orlando du 12 juin dernier dans une boîte de nuit gay. De quoi alimenter l'inquiétude de la communauté homosexuelle, une inquiétude prise en compte par la préfecture. Gérard Siade est le président du syndicat national des entreprises gays, le SNEG.
Dès le lendemain d'Orlando, la préfecture de police, au travers du directeur de cabinet du préfet, a souhaité nous recevoir dans l'urgence, à chaud, afin d'évoquer avec nous et avec le président de l'inter-LGBT dans le cadre de la sécurisation de la Gay Pride, la sécurisation des établissements sédentaires, des lieux et de tout ce qui concerne la communauté gay. Ce que craignent particulièrement les autorités aujourd'hui, c'est que même s'il n'existe pas à leur connaissance de risques et de menaces avérées, il n'en demeure pas moins que les événements d'Orlando pourraient donner une source d'inspiration à des individus éventuellement isolé, puisque c'est l'appréhension majeure de la préfecture, que ce phénomène crée comme ça des mini-franges de population qui souhaitent passer à des actes spontanément.
L'actualité se répercute également sur la marche des fiertés. Cette année, le trajet sera raccourci et modifié. C'est le prix à payer pour une meilleure sécurisation de la manifestation. Amandine Miguel est la porte-parole de l'inter-LGBT.
Il y aura une forte mobilisation policière. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un grand respect pour les marcheuses et les marcheurs. Donc pas de fouilles des sacs, ni de murs de police. Ces menaces, elles sont réelles, elles existent, puisque c'est malheureux. Mais c'est une réalité qu'il y a des violences à l'encontre des personnes LGBT. Face à ces violences, arrive la peur. Mais aussi, il faut ne pas céder à cette peur. Il faut faire face. Et pour faire face à cette peur, il faut rester mobilisé. Il faut continuer justement à vivre librement. Il faut se visibiliser. Il faut venir à la marche des fiertés LGBT pour occuper l'espace public.
Résister à la peur en défilant et en continuant à sortir dans des lieux gays. Sauf que le président du SNEG le constate, depuis les attentats de novembre, la fréquentation des bars et des boîtes homosexuelles a fortement diminué.
Un dossier réalisé par Antoine Marette. Cette marche des fiertés à Paris partira du Louvre à 14h demain. La météo, le ciel sera souvent bien encombré avec quelques averses sur les régions voisines de la Manche jusqu'aux Ardennes et l'Île-de-France ainsi que du sud-ouest au nord-est et à Rhône-Alpes. Ailleurs, ce sera du soleil. Température demain matin, généralement comprise entre 11 et 17 degrés jusqu'à 22 près de la Méditerranée. Un grand merci à Nathalie Lopez pour son aide dans la préparation de ce journal et Élise Le à la prise de son. 18h20 sur France Culture, Hervé Gardette, je crois que c'est le dernier grain à moudre de la saison, en tout cas en ce qui vous concerne.
Et un grain qui sera théâtral ce soir. Merci Antoine Denecher. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Ce soir, Molière, Shakespeare, qu'ont-ils encore à nous dire ? La maison de Molière ne pouvait pas rendre plus bel hommage à Shakespeare pour célébrer le 400e anniversaire de sa mort. Le 23 avril dernier, à l'issue de la représentation de Roméo et Juliette, toute la troupe de la Comédie française monte sur scène pour déclamer, chacun son tour, sa tirade favorite du dramaturge anglais. Molière, Shakespeare, l'un et l'autre continuent d'incarner, voire de résumer à la seule évocation de leur nom, la culture de leur pays d'origine, dans ses traditions comme dans sa modernité. Tartuffe, Richard III, le misanthrope, Othello, entre autres, sont des œuvres indémodables, comme en témoigne leur présence régulière sur les scènes de théâtre, sous leur forme classique ou revisitée. Alors est-ce parce que les thèmes qu'ils abordent touchent à l'universel que William Shakespeare et Jean-Baptiste Poquelin réussissent à mieux nous parler que beaucoup d'œuvres plus contemporaines ? Il y a quelques jours, mercredi prochain, de l'ouverture du Festival d'Avignon et en guise de dernière émission de la saison, nous avons choisi de nous intéresser à l'actualité de ces deux géants du théâtre. Molière, Shakespeare, qu'ont-ils encore à nous dire ? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le grand plaisir de recevoir trois invités. Gisèle Venet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite à l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste de Shakespeare et du théâtre anglais des 16e et 17e siècles. Vous avez co-dirigé l'édition Shakespeare de la Pléiade, dont la publication est quasiment achevée. Pour discuter avec vous, Michel Rosellini, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence en lettres modernes à l'École normale supérieure de Lyon. Vous animez un séminaire, en tout cas vous l'avez animé en 2016, Molière sur un plateau, la lecture du texte dramatique renouvelé par ses mises en scène. Et nous avons justement en troisième invité un metteur en scène, en la personne de Jacques Vincey. Bonsoir.
Bonsoir.
Metteur en scène et comédien également, enfin, en tout cas vous avez démarré comme comédien. Vous êtes aujourd'hui directeur du Centre dramatique de Tours. Comme metteur en scène, je ne vais pas toutes les signaler, mais vous avez monté et du Shakespeare et du Molière. Shakespeare, oui. C'était en 2009, La Nuit des Rois. Et Molière, c'était en 2013, Amphitryon. Alors ce soir, nous avons donc essayé, on ne va pas faire un match entre Shakespeare et Molière, mais disons que je pense que pour un public français, juxtaposer ces deux auteurs, ça peut paraître finalement assez naturel du point de vue de leur importance que nous leur donnons. Moi, je voulais vous demander déjà, Gisèle Venet, est-ce qu'une émission comme celle-ci pourrait avoir lieu à la BBC aujourd'hui ? Autrement dit, est-ce que les Anglais considèrent que Molière est l'équivalent français de Shakespeare ? Ou bien pour eux, Shakespeare est vraiment largement au-dessus ?
Je crois que le nationalisme britannique aidant, il y a Shakespeare d'abord. Mais effectivement, ils sont très intéressés par tout ce qui marche au théâtre. Évidemment, ils traduisent Molière et on n'a pas la même spontanéité que dans la langue française.
Molière a peut-être davantage de difficultés à vivre en dehors de nos frontières, Michel Rosellini, ou bien il c'est quand même l'auteur français que l'on joue le plus à l'étranger.
Alors, j'ai malheureusement une expérience trop limitée pour répondre vraiment à cette question. Molière est identifié à la langue de Molière, et donc à ce titre-là, il peut être présent comme représentant de la culture française, mais malheureusement, je ne peux pas vraiment répondre à la question sur le plan des mises en scène qui peuvent être réalisés à l'étranger. En revanche, dans les mises en scène qui sont données en France, qui sont réalisées en France, j'ai le sentiment qu'il y a énormément de choses exportables. Disons, une ouverture vers une culture internationale, celle du marché par exemple, celle aussi de la politique, des échanges, enfin Molière est travaillé dans ce sens-là, on va peut-être le voir plus concrètement.
Voilà, sachant que l'exportabilité de Shakespeare, elle n'est plus à démontrer. Alors on vous a demandé à tous les trois de choisir un extrait qui vous semblerait le mieux répondre à la question de ce soir. Molière, Shakespeare, qu'ont-ils encore à nous dire ? J'ai donc à ma droite, Gisèle Venet, spécialiste de Shakespeare. À ma gauche, Michel Rosellini, spécialiste de Molière. Et comme je ne voulais pas sortir de mon rôle d'arbitre impartial, c'est par vous que nous allons commencer, Jacques Vincey, puisque je ne sais pas si vous avez choisi du Shakespeare ou du Molière. Vous n'avez droit qu'à un seul extrait pour répondre à la question du jour.
Eh bien, ce sera Shakespeare.
Et ce sera quoi de Shakespeare ?
Et alors, j'ai choisi un extrait du prologue de Henri V, dans lequel il parle je dirais, de l'essence du théâtre dans justement ce qu'il a d'intemporel, ce qui restera toujours vrai et dans lequel il sollicite le spectateur, et je pense que c'est ça qui est important, enfin dans le débat on va y revenir, mais l'importance du spectateur dans la réception de ces œuvres qui traversent les siècles.
Alors là vous allez solliciter l'auditeur.
Voilà. Donc c'est un petit extrait de cette préface. Henri V, c'est une pièce dans laquelle il y a beaucoup de monde, en particulier c'est la bataille d'Azincourt, donc c'est irreprésentable au théâtre. Et voilà ce que propose Shakespeare. « Suppléez par votre pensée à nos imperfections. » Divisez un homme en mille et créez une armée imaginaire. Figurez-vous, quand nous parlons de chevaux, que vous les voyez imprimer leurs fiers sabots dans la terre remuée. Car c'est votre pensée qui doit ici parer les rois et les transporter d'un lieu à l'autre, franchissant les temps et accumulant les actes de plusieurs années dans une heure de sablier.
Alors là, c'est un extrait finalement assez naturel que vous avez choisi, puisque vous êtes metteur en scène et que ça parle justement de la façon peut-être de mettre en scène certaines œuvres. Gisèle venait sur la question alors de ce que ces auteurs, et en particulier Shakespeare, a à dire aujourd'hui au monde du théâtre. On peut dire que c'est quelqu'un qui a contribué à fixer les formes contemporaines du théâtre.
En tout cas, il semble avoir prévu qu'il aurait quelque chose à nous dire. Par exemple, si on écoute dans Jules César, à l'acte 3, César vient d'être tué, il est encore pantelant sur la scène, et un personnage dit « Dans combien de siècles encore portera-t-on à la scène notre acte sublime dans des états à naître et des langues inconnues ?» Alors il n'y a pas que ça. Brutus, l'idéaliste, lui répond bien sûr. Et c'est curieux parce qu'il lui répond avec tout d'un coup ce regard vers quelque chose de bien plus concret que les siècles à venir. Et il lui dit, il répond, combien de fois jouera-t-on à faire saigner César, lui qui gît aujourd'hui aux pieds de Pompée, sans plus de valeur que la poussière. On a donc là une sorte de vision, ce pessimisme existentiel qui va être quand même au cœur aussi de la pensée de Shakespeare. Et on a une autre réponse encore. Chaque fois que cela sera, dit Cassius, l'idéaliste, on dira du noyau que nous formons, voici les hommes qui donnèrent à leur pays la liberté. Or on sait, parce qu'on a la suite de la pièce, et on sait qu'en fait, c'est la fin de la République, c'est la fin de Rome, c'est la fin de tous les idéalismes, c'est ce moment que Shakespeare cueille, où le politique devient la politique avec toutes ses bassesses. On a donc là un moment qui vraiment a quelque chose, je crois, encore à nous dire.
Donc finalement, je vous posais la question de savoir s'il avait fixé des formes théâtrales. Vous êtes en train de nous répondre, Gisèle Venet, qu'il a aussi peut-être fixé des formes du politique, et en tout cas la compréhension de ce qu'est la machinerie politique aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était d'ailleurs l'extrait que vous souhaitiez évoquer. J'ai l'impression que vous avez déjà un petit peu commencé à nous dire également le vôtre. Mais peut-être pour revenir quand même sur les questions de mise en scène, puisque c'est aussi l'objet de vos interventions, Michel Rosellini, sur Molière, dans le cadre de l'ENS Lyon. Est-ce que ce sont des œuvres qui, d'un point de vue justement de la mise en scène, offrent à la fois un cadre qui a permis au théâtre de se structurer et en même temps une forme de souplesse qui lui permet justement d'être encore joué aujourd'hui?
Oui, alors je pense que dans l'écriture même de Molière, il y a comme programmé, comme installé, par sa manière d'envisager le dialogue théâtral, les interactions entre les personnages, cet espace de liberté pour laisser à l'interprétation, et je dirais même à la mise en scène, alors qu'à son époque, la mise en scène strictement n'existe pas. Mais on le voit vraiment dans la manière dont les metteurs en scène actuels s'emparent de cet espace laissé disponible, hein, de l'agencement des répliques, des situations, des débats, hein, qui s'installent entre les personnages, la tonalité qui va être donnée. Alors là encore, il faudrait peut-être quelque chose de plus concret. Si vous voulez, je vais lire mon extrait.
Bah peut-être un petit peu plus tard, si vous voulez bien, quoi. Ça, voilà, comme ça. Bon, on va garder alors, un petit peu de suspense.
Si ma
un petit peu de suspense.
Ne vous paraît pas trop abstraite, voilà celle que je ferai. Hein, il y a dans l'écriture de Molière à la fois une grande précision, parce qu'elle est d'emblée incarnée, il la destine à des acteurs précis, hein, ce n'est pas une écriture abstraite, mais en même temps, elle est assez, comment dire, polyphonique, pour laisser de la place à l'interprétation et à la réinterprétation.
Gisèle Venet, est-ce que Shakespeare laisse une même liberté à ceux qui ont eu l'occasion de monter ces pièces par la suite? Ou bien est-ce qu'on est davantage dans un cadre strict?
Mais il n'y a pas de cadre justement chez Shakespeare, c'est ça qui est absolument merveilleux. D'abord, il travaille dans un théâtre en rond. Donc il n'y a pas de frontalité, il n'a pas de message à envoyer, il n'y a personne en face. Ça lui tourne autour, les spectateurs. Et il fait toujours parler ses personnages, il n'a jamais laissé de texte personnel. Il fait toujours parler des personnages qui eux-mêmes vont être contredits par ce qui arrive par le théâtre lui-même. C'est-à-dire c'est le théâtre qui parle, c'est pas Shakespeare. Et donc, on a véritablement cet effet du théâtre en rond dans lequel il ne peut pas être le moraliste central. Il n'y a pas de point de vue dans le théâtre en rond.
Puisque nous avons une forme d'arbitre ce soir entre Molière et Shakespeare en la personne de Jacques Vincé, puisque je rappelle, vous avez mis en scène une des pièces de chacun de ces deux auteurs, sur la question justement de la liberté des contraintes et peut-être de ce qui correspond le mieux dans la façon d'écrire à ce que serait une forme de théâtre contemporain. Vous iriez davantage vers qui? Vous avez choisi un extrait de Shakespeare, alors c'est peut-être parce que c'est Shakespeare,
oui,
qui vous convient le mieux.
Il se trouve que la pièce de Molière que j'ai montée, Amphitryon, est considérée comme la plus shakespearienne des pièces de Molière. Donc effectivement, je dois avoir, et je rejoins tout à fait Gisèle Venet sur le fait que il y a une multiplicité de points de vue qui s'exprime chez Shakespeare, peut-être plus que chez Molière, en tout cas pour moi, qui me laisse la place pour traduire, j'allais dire, on parlait du fait que effectivement, suivant où on se place, où Shakespeare ou Molière doivent être traduits, et la question de la traduction dans notre langue, mais quand je dis dans notre langue, en tant que metteur en scène, c'est la langue du plateau, c'est la langue des acteurs, c'est la langue des corps, et je pense que c'est primordial de retraduire, et je dirais même d'aller jusqu'à, parce qu'on dit que parfois la traduction est une trahison, aller jusqu'à les trahir, et en l'occurrence Shakespeare, peut-être plus encore que Molière, on sait que c'était un ogre qui se nourrissait de tout ce qui l'environnait, que ce soit de la réalité, de la littérature. Et je pense qu'il nous demande d'oser une audace d'artiste à la mesure de la sienne, c'est-à-dire de s'emparer de cette matière sans être trop respectueux du classique en coloriant dans les limites des traits.
C'est d'ailleurs un auteur Shakespeare, Gisèle Venet, qui a été beaucoup traduit. C'est d'ailleurs l'objet de cette édition de la Pléiade que vous co-dirigez. Est-ce que ces traductions, en tout cas, sont nécessaires pour permettre justement à l'œuvre de Shakespeare de s'adapter, disons, au mieux au monde moderne? Est-ce que c'est, en tout cas, la façon dont vous avez dirigé cette nouvelle édition? C'est-à-dire d'avoir un Shakespeare qui soit véritablement contemporain?
C'était l'objet, oui, des traductions, mais c'est ce que nous envient, bien entendu, les Anglais, qui, pour les très jeunes étudiants, traduisent Shakespeare dans une langue plus actuelle. Et effectivement, ils nous disent qu'on a toute la chance d'avoir un Shakespeare moderne dans une langue moderne et intelligible, et qu'on n'a pas besoin de notes de bas de page pour comprendre le texte. Ça, c'est quand même extrêmement important, oui.
Est-ce qu'on pourrait se poser la question pour Molière, mais pour les étudiants français, Michel Rosellini? C'est-à-dire, effectivement, Molière a évidemment écrit en français, mais c'est une langue qui n'est plus quand même tout à fait celle que nous parlons aujourd'hui. Est-ce qu'il y a besoin, peut-être aussi, de retraduire Molière en français?
Oui, moi je pense que dans certains cas, il faut ne pas hésiter à faire de la paraphrase, à remodeler la syntaxe pour aller vers une compréhension immédiate qui parfois n'est pas acquise. Hein. Il y a un obstacle de la langue. Mais
c'est pas une forme de sacrilège, ça, que c'est de s'attaquer à...
Ah non, moi je ne pense pas, parce que l'essentiel, c'est de comprendre la littéralité du texte pour ensuite pouvoir le travailler dans sa réalisation concrète, hein, qui est celle de Molière. Et je pense que le travail d'acteur est aussi de cet ordre-là, d'arriver à expliciter les situations en franchissant parfois la barrière que, dans un premier temps, peut constituer le texte dans sa littérature.
Sinon, qu'on a souvent affaire à de tels joyaux de littérature qui sont... Parfois, c'est le travail du traducteur aussi, d'essayer de restituer tout en actualisant. Mais il y a des perles quand même dans ces deux classiques, qui sont des perles d'ailleurs, qui sont des phrases parfois qu'on a tous en tête et qui nous aident à vivre d'année en année. Et ça a été fixé dans une langue à un moment. Alors effectivement, je pense qu'il faut, je disais, il faut bousculer tout ça peut-être, mais avec à la fois l'exigence, l'ambition... De s'approprier la chose et en même temps la modestie quant au fait qu'ils sont souvent indépassables.
Michel Rosellini, est-ce qu'il y a par exemple des pièces qui mériteraient selon vous de Molière, ou une pièce qui mériterait peut-être d'être réactualisée pour qu'on la comprenne davantage et pour qu'elle soit plus justement, comment dire, plus parlante pour nos contemporains?
Je parlais d'une démarche pédagogique, hein, parce que vous parliez de mon rapport aux étudiants à travers le texte. Mais je ne pense pas...
Votre audace ne va pas jusqu'à la scène ? Et pourquoi pas, après tout ?
Ah non, parce que je pense effectivement, comme vient de le dire Jacques Vincé, que la langue de Molière, elle a non seulement sa saveur, mais sa logique propre, et elle produit des effets signifiants également, hein, dans les tournures même. Donc il ne s'agit pas de... Mais une expérience qui a été faite là tout récemment concernant le dénouement de l'avare par Ludovic Lagarde, c'est de supprimer le dénouement écrit par Molière pour en rester à, disons, la première phase du dénouement, c'est-à-dire la tractation qui s'opère autour de la restitution de la cassette et qui permet le mariage de Marianne avec le fils d'Harpagon. Parce que le reste lui paraissait artificiel, lui paraissait enlevé de la force critique et, je dirais, politique à cette pièce qui tourne autour de l'argent, de la puissance de l'argent, du négoce, voilà. Et donc,
Gisèle Venet.
Oui, mais on rencontre le même problème avec le Marchand de Venise, puisque le Marchand de Venise, qui est aussi l'osium des Vénitiens contre le négocium du Juif, ce monde moderne qui arrive, le monde du négoce, et qui rencontre le monde ancien qui n'a plus d'âme, qui a un peu perdu son âme, qui ne sait plus très bien où il va. Et justement, à partir des romantiques, on s'arrête à la fin de l'acte 4, c'est-à-dire au pitoyable moment où Shylock quitte la scène et on lui a tout pris. Et il part dans un cri de rage et de détresse formidable, alors qu'il y a encore tout l'acte 5, charmant, etc., etc. Eh bien, très longtemps, et encore souvent, on joue le Marchand de Venise qui s'arrête à la fin de l'acte 4.
Alors, Michel Rosellini, puisque vous avez évoqué l'expérimentation récente qui a été celle de Ludovic Lagarde, moi, je voudrais vous en soumettre une autre. On est encore dans Molière, c'est Don Juan, mais avec un sganarelle, ou plutôt une sganarelle, puisque personnage joué par une femme, et c'est mis en scène par Gwenaëlle Morin.
Oui. Sachez, monsieur, que tant va la cruche chalot qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est attachée à l'arbre. Qui s'attache à l'arbre suit de bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour sont les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme est ce qui nous donne la vie. La vie finit par la mort. La mort nous fait penser au ciel. Le ciel est au-dessus de la terre.
Voilà un extrait du Don Juan, mis en scène par Gwenaëlle Morin dans sa revisite des Molières de Vitesse. Alors voilà, c'était une expérience, enfin plus qu'une expérience d'ailleurs, qui avait été menée dans les années 70, que lui a refait, c'était il y a quelques mois de cela, au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Et ce sera dans quelques mois, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cet extrait, au Centre Dramatique de Tours, que vous dirigez Jacques Vincé. Alors Gwenaëlle Morin, voilà, ça fait partie justement des metteurs en scène qui n'hésitent pas
droit, à modifier les didascalies, à changer également le texte, à le réduire parfois quand il considérait, par exemple, il avait fait un Tartuffe d'après Tartuffe de Molière, où certains passages de la pièce avaient été supprimés, parce qu'il considérait que c'était peut-être un petit peu en trop. Est-ce que cette audace-là, c'est quelque chose, vous, qui vous gêne, qui vous enthousiasme? Comment est-ce que vous situez par rapport à ce genre de choses?
Si je le programme, c'est que ça m'enthousiasme plutôt. Mais c'est un bel exemple, je trouve, parce que Gwenaël Morin, qui reprend le principe d'Antoine Vitesse en 78, donc c'est vraiment une transmission d'un auteur qui reprend le travail d'un metteur en scène avec d'autres acteurs, donc dans un même esprit, et en même temps en se l'appropriant et en poussant le bouchon encore plus loin, puisque Gwenaël Morin, par exemple, n'a pas fait de distribution, il a tiré les... C'est pour ça que Sganarelle est joué par une femme, il a tiré les personnages au sort, il a mis les personnages dans un chapeau et les acteurs sont retrouvés à jouer une chose ou une autre, revendiquant le fait qu'avant toute chose, ce qui était important, c'était l'énergie et le plaisir du jeu. Alors c'est un peu court de dire ça, mais l'énergie et le plaisir du jeu dans une équipe de mêmes acteurs qui vont s'approprier, qui vont jouer ces quatre pièces, dans l'idée qu'évidemment Molière peut-être n'a écrit qu'une seule pièce à travers ces quatre pièces et les autres. Donc arriver à reconcentrer le propos à la fois dans une immédiateté du plateau et en même temps dans des résonances d'une pièce à une autre avec les mêmes acteurs.
Je suis sûr, c'est Molière de Vitesse par oui. Morin, Michel Rossellini.
Alors moi j'ai vu, disons, la création, la première expérimentation de ce principe, de tirage arbitraire des rôles et de jeu continu des quatre pièces jusqu'à l'épuisement de la troupe au Théâtre du Point du Jour, où Gwenaël Morin, il y a 2 ans, a créé ses spectacles sur ce principe-là. Et effectivement, la transformation du texte de Molière dans ce contexte ne me paraissait pas du tout gênante.
Ah bah parce qu'on n'était pas...
Mais oui, parce que c'était vraiment une expérimentation. C'était le travail de jeunes acteurs qui étaient en mouvement et constamment en mouvement de toute leur énergie, de toute leur jeunesse, je dirais, et qui renouvelait le texte et notre perception du texte de manière extraordinaire. Par exemple, le Tartuffe, c'était une femme, une jeune femme très belle. Et alors, la scène de séduction d'Elmire, elle prend une toute autre résonance quand on voit ce corps féminin qui s'approche d'un autre corps féminin extrêmement gracieux également. Vous avez quelque chose d'une électrisation du désir qui passe sur scène et qui n'est pas un contresens pour Molière.
C'est peut-être comme ça aussi qu'on reconnaît certains chefs-d'œuvre, Gisèle Venet, c'est-à-dire à leur plasticité, au fait qu'ils permettent aussi de traverser comme ça les époques en les modifiant de temps en temps.
Il y a aussi la jouissance que nous donne Shakespeare d'avoir encore prévu que nous ferions ça, puisqu'il y a l'ineffable moment dans Le Songe d'une nuit d'été où de simples artisans vont monter une grande tragédie qui a fait vibrer tout le Moyen-Âge et toute l'Antiquité, la plus belle des tragédies d'amour, etc. Et les artisans vont naturellement absolument bousiller tous les textes. Et en plus, ils sont tous des hommes, puisqu'il n'y a pas de femmes au théâtre. Et Shakespeare joue sur le fait qu'il est bien obligé de prendre un petit barbu pour faire la jeune première, et qu'il est bien obligé. Et c'est extraordinaire, ça aussi, il l'a prévu, qu'un jour on serait encombré au théâtre de cette histoire de genre. Donc, toute l'histoire de Rosalinde et Orlando, c'est-à-dire Rosalinde, la quintessence de la féminité, Orlando, la quintessence de l'héroïsme, etc. Eh bien, ils se retrouvent tous les deux petits garçons en scène, dans Comme il vous plaira, et ils sont contraints de se faire la cour, deux petits garçons se faisant la cour, parce que Rosalinde s'est déguisée en garçon, que ça crée un pataquès extraordinaire. Shakespeare nous tend là aussi une perche formidable sur ce que c'est que le genre féminin ou masculin. C'est fabuleux.
Jacques Vincé.
Oui, je pense effectivement que l'expérience de Gwenaël Morin, mais c'est ce que vous racontez de Shakespeare, de cette scène des artisans, on sait comment ils écrivaient à la fois Molière et Shakespeare. Comme ça, Shakespeare, on n'est même pas sûr que ça soit exactement les textes, ça a été repris par les acteurs. Bon, il y avait avant toute chose une vitalité, une vibration de départ qu'on se doit de retrouver d'une manière ou d'une autre. Alors effectivement, sur Le Marchand de Venise, vous disiez qu'il y a une époque, on ne jouait pas le cinquième acte. J'ai le projet de monter cette pièce. C'est une pièce qu'évidemment, on ne peut pas monter de la même manière qu'à l'époque des romantiques, qu'on ne peut pas monter de la même manière depuis la Shoah. Il y a des tas d'autres paramètres qu'on doit prendre en compte pour retrouver cette vibration, ce trouble Et même parfois ce côté scandaleux, ce côté, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'un comme l'autre ont bousculé leur époque, et c'est ça qui a fait aussi qu'ils ont résonné encore des siècles plus tard.
Il y avait un article du Figaro en 2013, qui est un des rares articles d'ailleurs qu'on a pu trouver, où il y avait une vraie tentative, on va dire, de comparaison entre Shakespeare et Molière. Il était co-signé par Armel Hélio, je ne me souviens plus de l'autre journaliste qui signait cet article, et qui disait notamment ceci. Alors, effectivement, en partant du caractère rebelle de l'un et l'autre de ces deux auteurs, mais disant Molière est rebelle, mais il est homme de cour, Shakespeare est rebelle, et il n'est pas homme de cour. Mmh. Parce que c'est une des grande différence, disons, Michel Rosellini.
Effectivement, Molière écrit pour le roi dans le contexte de la cour, enfin dans la dernière partie de sa carrière. Hein. On peut voir quand même l'itinéraire de Molière qui est beaucoup plus complexe que cela. Mais écrivant pour la cour, je pense qu'il finalement, il ne cède en rien sur la vivacité de son propos sur les problèmes de société qui préoccupent son temps. Hein. Ce n'est pas une littérature courtisane pour autant. Et on voit bien le Tartuffe, bien entendu. À la fin, il y a ce Deus ex machina qui est la parole du roi qui vient en quelque sorte arrêter le cours normal de la justice pour produire sa propre justice et restituer la famille d'Orgon dans ses droits. Hein, et évidemment, exclure de la scène l'escroc patenté qu'est Tartuffe. Donc, on a souvent interprété cette fin comme une fin courtisane. Finalement, il fallait bien rendre hommage au roi et puis faire passer aussi toute l'impiété de la pièce. Mais on peut la lire autrement. Dans cette famille où le père a démissionné, où il n'est plus protecteur des siens, eh bien, le roi incarne finalement une figure paternelle supérieure et fait respecter l'ordre social, hein, tel qu'il est institué par l'État monarchique. Donc il y a une logique, je pense, à ce dénouement. Qui n'est pas. Voilà.
Gisèle Venet ?
Je pense aussi que parce que historiquement, ils ne sont pas dans des moments identiques, que Shakespeare est un pré-classique. Il est d'ailleurs un ennemi de tout aristotélisme et de tout ce qui peut être règle aristotélicienne, avant même qu'elle ne s'installe au théâtre. Elles ne sont pas du tout encore de mise. Il n'y a que Ben Jonson qui commence à les appliquer. Et donc, il est spontanément en situation d'écrire des œuvres ouvertes, parce que c'est un baroque, parce que c'est un maniériste, parce qu'effectivement, il a une sorte d'irrévérence spontanée pour tout cet humanisme qui a été tout de même une très grande contrainte. Et donc, c'est l'anti-humanisme à la fois sombre, dans Hamlet, et l'anti-humanisme heureux des comédies. On a quelque chose de moins difficile comme libération pour Shakespeare, je pense, parce qu'il n'est pas dans la même situation ni politique d'ailleurs, oui. ni esthétique.
C'est cette irrévérence qui fait que les metteurs en scène et les comédiens aiment à ce point Shakespeare, Jacques Vincé.
Oui, je crois que cette irrévérence tout simplement permet... En fait, c'est des notes qui ont toutes des harmoniques formidables. C'est-à-dire qu'il y a une proposition et qui effectivement... Je parlais de vibration tout à l'heure, la musique c'est de la vibration, et c'est vrai que dans la pensée aussi, ça vibre de manière différente, et il faut s'autoriser à suivre, à tenir au plus près de ce qu'on pressent, ce qu'on ressent intuitivement, et après évidemment il faut l'étayer d'une construction de mise en scène, mais j'essaye toujours, moi je dis toujours que je monte des pièces parce que je ne les comprends pas, c'est une boutade évidemment, mais ça a une part de vrai, c'est-à-dire que ce que j'aime,
moi je fais pareil avec les émissions, hein,
dans les grands auteurs, c'est qu'il y a une part d'obscurité, ces chefs-d'œuvre qui perpétuellement font énigme, disait Vitesse, il y a quelque chose qui est passionnant parce que il nous bouscule et il faut que notre mission d'interprète, c'est de continuer à bousculer et surtout pas d'être trop respectueux.
Voilà, Michel Rosellini, vous nous avez dit tout à l'heure que Molière, c'était un auteur qui n'hésitait pas à traiter des problèmes de société de son temps. Alors, est-ce que ces problèmes de société de son temps sont encore des problèmes de nos sociétés à nous ? Peut-être que c'est une illustration que vous allez nous donner maintenant lisant un extrait. Alors là aussi, je ne sais pas...
Vous êtes devin, parce que justement, c'était dans cette perspective que j'avais choisi l'extrait. À partir de l'idée que finalement, Molière ne délivre pas un message tel quel. Mais ce qui va faire sens pour nous, et pouvoir éclairer certains certaines des préoccupations qui traversent encore notre société, eh bien, c'est le dispositif critique qui est construit par le dialogue. Alors, je vais vous lire un tout petit passage du grand sermon d'Arnolphe à Agnès au moment où il lui a déclaré son intention de l'épouser.
Dans quelle pièce, il faut nous le rappeler ?
Ah pardon, dans l'école des femmes. Excusez-moi, c'est la familiarité. Le mariage, Agnès, n'est pas un badinage. À d'austères devoirs, le rang de femme engage. Et vous n'y montez pas à ce que je prétends pour être libertine et prendre du bon temps. Votre sexe n'est là que pour la dépendance, du côté de la barbe et la toute-puissance. Bien qu'on soit deux moitiés de la société, ces deux moitiés pourtant n'ont point d'égalité. L'une est moitié suprême et l'autre subalterne. L'une en tout est soumise à l'autre qui gouverne. Et ce que le soldat dans son devoir instruit montre d'obéissance au chef qui le conduit, le valet à son maître, un enfant à son père, à son supérieur, le moindre petit frère, n'approche point encore de la docilité et de l'obéissance et de l'humilité et du profond respect où la femme doit être pour son mari, son chef, son seigneur et son maître. Alors, l'habileté de Molière, évidemment, c'est de faire détruire par son plus grand défenseur l'argumentaire de la domination masculine. Parce qu'évidemment, il essaie de naturaliser. Et là, on est tout près des thématiques, des stéréotypes, enfin, de tout le débat qui a existé autour de cette extension du mariage, autour des rôles sexuels et des genres. Il essaie de naturaliser la domination masculine en mettant en avant la barbe.
Hein. En même temps, il le fait de manière détournée. Oui. En tout cas, qui peut être comprise de deux manières.
Oui, oui, parce que c'est très comique. Et d'ailleurs, si j'ai pris ce texte, c'est que j'ai assisté à beaucoup de mises en scène de l'école des femmes et ça fait toujours frémir le public. Il y a une connivence qui s'installe et on voit bien que, évidemment, sa conception des deux moitiés de l'humanité, l'une inégale, c'est un défi à la logique arithmétique. Donc ça, c'est, le discours s'autodétruit. Évidemment, pendant ce temps, Agnès est absolument silencieuse et donc, voilà. Je crois que la démonstration est faite.
Alors, vous parlez du comique de Molière. En France, pour dire le grand public, dont je fais absolument partie, quand on évoque Shakespeare, on a plutôt tendance, spontanément, disons, à l'amener vers le drame. Et c'est notamment, d'ailleurs, une formule journalistique qui est particulièrement utilisée par les journalistes. Et notamment, aujourd'hui, on ne l'a pas fait exprès, mais il se trouve que dans Le Temps, par exemple, qui est un journal suisse, on nous parle à propos du Brexit et puis des problèmes qu'il y a pour la succession du Premier ministre David Cameron de drame shakespearien. C'est aussi un climat de drame shakespearien qui est dans un article du Figaro. Et Libération, ce matin, fait sa une. Brexit, Shakespeare, Empire. Comment se fait-il, Gisèle Venet, que Shakespeare soit à ce point associé au drame? Et est-ce qu'il y a une forme d'injustice, peut-être, à l'égard de cet auteur que vous connaissez si bien?
Oui, absolument. Enfin, bien sûr qu'il y a, avec Hamlet, le constat d'une défaite radicale de la pensée, d'une impossibilité désormais de penser le monde, de penser le cosmos, de penser l'humanité, de penser la femme, de penser le désir. C'est vraiment il y a une radicalité dans la mise en question, parfois... raison pour laquelle peut-être Hamlet a gardé une préséance. En fait, c'est une pièce effroyablement mal faite, et faite de pièces et de morceaux, et réécrite de Dieu sait quel support qui a été remalaxé. Enfin, mais elle est devenue comme ça, ce principe d'intelligence du monde que nous aurait légué Shakespeare. En fait, il nous lègue surtout qu'il n'y a rien à comprendre. C'est surtout ce qu'il est en train de nous donner, et qu'effectivement, quoi qu'on fasse dans la pensée, on ne pensera jamais rien. Et alors, il suffit de comparer, il y a deux petit volume dans la noble pléiade de tragédie, et il y a trois volumes énormes de comédie. C'est quand même pas rien. Et je pense qu'il y a, vous parliez d'irrévérence, et moi je médite un petit essai justement sur la comédie et la poétique de l'irrévérence. C'est quelque chose d'extraordinaire à quel point ces comédies sont irrévérencieuses. Mmh. Et en même temps, elles n'instaurent jamais une sorte de plaisir heureux. On a une sorte de subtil plaisir du déplaisir dans les comédies. C'est-à-dire, on est amené à la fois à jouir et à sentir que tout est évanescent dans le moment même où on l'aime. On aime un garçon, il va devenir une fille. On aime une fille, il va devenir un garçon. On ne sait jamais trop bien ce qu'on saisit. Et donc, on va évidemment vers ce monde ce monde final de Prospero qui va briser son bâton de magicien et qui va nous dire finalement « We are such toughest dreams are made on and our little life is rounded with a sleep ». C'est-à-dire nous sommes faits de l'étoffe de nos rêves et notre petit monde se clôt sur un sommeil.
Jacques Vincey, le plaisir shakespearien n'est pas tout à fait le même que le plaisir moliérien.
Alors le plaisir est de s'attaquer à une œuvre et un chef-d'œuvre. Alors pour le coup, je pourrais pas dire que j'ai plus de plaisir à monter Shakespeare ou Molière. Je dirais néanmoins, et le fait que Shakespeare se retrouve en une de Libé aujourd'hui. Et ça rejoint ce que disait Gisèle Venet, c'est-à-dire qu'il y a un chaos dans tout ça qui est fondamental et d'une certaine manière qui nous... ça n'a même pas besoin de passer par la tête, ça nous est consubstantiel, je dirais. Il y a quelque chose qui est... Voilà, mais Molière aussi, dans ses grandes pièces, aborde presque des mythes. Ils ont réussi à fixer des mythes qui sont nous. Et qu'après, on peut essayer de penser, de prolonger.
À ceci près, Jacques Vincey, enfin, je vais peut-être d'ailleurs poser la question à Michel Rosellini, que Molière n'a pas réussi, disons, à imposer justement un adjectif comme Shakespeare. Donc on parle de drame shakespearien, voilà, d'un moment shakespearien. L'actualité moliérienne ou moliéresque,
j'ai vu que c'était moliéresque. On a l'impression que c'est presque un suffixe péjoratif. Esque, c'est
on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, surtout. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, justement? Et quel serait le bon usage, disons, de ces adjectifs si, par exemple, demain, je devais présenter un journal, une certaine actualité?
Je pense que dans Moliéresque, il y a l'idée de la caricature. Il y a l'idée du rire, finalement, qui se déclenche presque automatiquement à la représentation de certains types, de certains travers sociaux. Voilà. Et en effet, Molière est par là réduit, parce qu'il apporte des choses plus vastes. Si on se réfère à l'avare, par exemple, ce que la mise en scène de Ludovic Lagarde m'a complètement fait découvrir, et c'était dans le texte, c'est que Harpagon n'est pas un petit thésaurisateur comme le personnage de Plaute, pas du tout. C'est un négociant. Cette cassette qu'il a, cet argent qu'il a dans la cassette, on vient de le lui remettre. C'est le fruit, soit de son usure, un débiteur l'aurait remboursé, soit d'une négociation obscure qu'il a traitée. Et quand on découvre qu'il est l'usurier entre les pattes duquel son propre fils est tombé, eh bien la flèche fait la réflexion suivante: il faut qu'il ait quelque part un vaste magasin de hardes, car je n'ai rien reconnu dans le mémoire que nous avons. Et Ludovic Lagarde met sur la scène ce vaste magasin, ce sont les entrepôts d'Amazon. Et on a des manipulateurs avec des petits chariots élévateurs qui transportent d'énormes caisses. C'est l'univers d'Harpagon. Il est ouvert sur le marché international. Voilà. Et ça, il ne faut pas trop solliciter le texte de Molière. Il fait une radicale transformation de la donnée de Plaute.
Est-ce que l'actualité de cet été sera plutôt shakespearienne ou plutôt moliéresque? Voilà ce qui s'appelle une transition
magnifique,
un petit peu acrobatique. Bonsoir Raphaël Bourgois.
Bonsoir Hervé.
Voilà, si vous intervenez ce soir et non pas dans la Grande Table qui est votre maison habituelle, c'est parce qu'à partir de lundi, vous allez prendre... oui, parce qu'on vous retrouvera le dimanche. Enfin bon, ça c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, à partir de lundi, vous prenez la relève pour du grain d'été à partir de...
Lundi donc.
Quelle heure?
De 18h15.
Et oui, parce que l'été, c'est un petit peu plus long du Gramoud. Vous avez 5 minutes de rap, ce qui nous servirait bien.
À partir de lundi, c'est 18h20 et c'est la semaine d'après, ce sera 18h15. C'est un peu compliqué.
Vous voyez, j'ai bien fait de vous poser la question. Tout vous avez fait. Déjà une petite idée du programme de la semaine prochaine?
J'ai même déjà une bonne idée. Lundi, on reviendra sur la loi travail. Alors, j'ai pas votre science du titre, Hervé Gardette. Alors, les auditeurs m'excuseront. Lundi, on reviendra sur la loi travail après le 49-terre. Revanche ou défaite du Parlement. On verra ça avec nos invités qui seront Nicolas Rousselier, l'historien, Didier Mauss, qui lui est très pour le 49-3, me dit-on, et Catherine Colliot-Hélène, qui est la philosophe. Voilà, donc la question que je poserai, c'est être ou ne pas être Gardette, ou peut-être couvrir ce Gardette que je ne saurais voir, je ne sais pas encore.
Ah oui, c'est à renseigner quand même par rapport à l'émission de ce soir. Merci beaucoup Raphaël Bourgois, merci à nos trois invités, Gisèle Venet, Michel Rosellini et Jacques Vincey. Je vous donne rendez-vous d'ici une dizaine de jours, ce sera à Montpellier, dans le cadre des rencontres de Pétrarque. J'aurai le plaisir d'animer cette année encore en compagnie de Jean Birnbaum. album, édition anniversaire, ce sera la 30e, et l'occasion de revenir sur quelques-unes des grandes questions qui ont émergé au cours des trois dernières décennies. On verra bien si Shakespeare et Molière s'y invitent parfois. Un grand merci également à toute l'équipe du Grain, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Céline Leclerc, Cyril Bayer, que j'aurai aussi grand plaisir à retrouver à la rentrée dès début septembre. Merci également à nos trois stagiaires qui nous ont accompagnés cette année, Nafsika Papanikolaou, Hugo Florent et Tanguy Omri, à nos deux réalisateurs Jean-Christophe Francis et Anne Comilac, ainsi qu'à Viviane Noël qui réalisait l'émission ce soir. À la prise de son, il y avait Élise Le. Et tout de suite, c'est ping-pong avec Mathilde et Martin. Bonsoir.